Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes qui venez de nous rejoindre. Et donc 20h20, l'émission La Prophétie, inchallah, jusqu'à 22h. C'est Ahmed, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc de retour après une petite absence suite à bien sûr la fin du Ramadan, la période de fête de l'Aïd. Il y a une émission qui avait été on a délibérément hein, pour que tout le monde puisse profiter un petit peu du long week-end de la fête de l'Aïd. La semaine dernière on avait fait un petit débat autour de l'actualité. Là ce soir donc c'est Ahmed, tu es parmi nous on va faire un commentaire d'un verset ô combien important du Coran. Je reviens tout de suite. Juste par rapport à l'actualité, je suis tombé sur deux articles de journaux et j'aimerais bien faire participer un petit peu, en faire profiter un petit peu l'ensemble de nos auditeurs et nos auditrices autour de l'actualité. Et en fait, je suis tombé là sur un article de Libération, journal connu, hein, Libération, qui écrit un article sur la crise des banlieues, actualité oblige, dans le Nord. Donc c'est un article qui touche particulièrement la région du Nord. Dans le Nord, au tribunal, des émeutiers loin des clichés. Donc en fait, c'est un article qui a été édité dans le journal Libé, qui précise que, contrairement aux clichés habituels où on voit des casseurs, des noirs et des bronzés, des arabes, il précise que la plupart des personnes qui sont devant le tribunal du Nord, sont pas particulièrement ces personnes-là. Il y a des blancs de chez blancs, comme on dit. Des jeunes blancs issus des milieux défavorisés comparaissent devant la justice. C'est pas pour dire que c'est pas pour faire un hit-parade des je ne sais quoi, c'est pour vraiment casser le cliché qu'on ne croit pas que systématiquement ceux qui sont dans les quartiers défavorisés qui revendiquent des choses qui sont revendicables, hein, si je puis dire, sont pas forcément des blacks et des beurs, mais il y a aussi des français de souche, comme on dit, des franco-français qui eux aussi ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils vivent une misère sociale qui est plus supportable. Donc je vous encourage vivement à aller sur le libération.fr, donc le site de Libération, où vous aurez accès à cet article où on précise que effectivement à Lille il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées et comparues au tribunal, et que c'est des personnes qui sont de couleur blanche et qui ont aussi été pris en flagrant délit de violence urbaine. Le débat bien sûr, est-ce que c'est justifié ou pas, ça on en a discuté longuement sur les ondes de Pastel FM, on va pas y revenir, mais j'insistais sur cet article particulier qui permet un petit peu de casser les clichés, et donc je vous y encourage vivement sur libération.fr d'y aller jeter un petit coup d'œil. Par ailleurs, un événement scandaleux qui est arrivé très récemment. La préfecture, la sous-préfecture de Rancy, donc c'est dans la région parisienne, qui a refusé, donc sa préfecture de Saint-Denis, hein, qui a refusé une carte de résidence à une femme voilée. Elle a fait une demande de délivrance de carte de résidence de 10 ans courant novembre, et on lui a envoyé un courrier stipulant que sa demande était refusée. Mais bon, qu'elle soit refusée à la rigueur, l'administration décide ce qu'elle veut. Par contre, ce qui est vraiment scandaleux, c'est l'argumentation et la raison pour laquelle on a refusé de lui donner la carte de résidence. Donc je vais la lire telle quelle. Hein. Vous sollicitez, donc ça c'est le courrier qui a été renvoyé à cette dame, vous sollicitez la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de 10 ans. Or, une étude attentive de votre demande ne me permet pas de lui réserver une suite favorable. Donc ça, c'est la préfecture qui renvoie ce courrier. En effet, l'entretien réalisé à l'occasion de votre demande de titre a révélé que vous vous êtes présenté vêtu d'un voile couvrant entièrement votre cou et la racine de vos cheveux. Assimilable au hijab, signe d'appartenance à un islam fondamentaliste. En conséquence, vous ne justifiez pas d'une intégration républicaine dans la société française conformément à la réglementation en vigueur. Donc voilà la raison qui a été évoquée pour ce refus de carte de séjour, tout simplement parce que la bonne dame a porté un foulard Et donc on a simulé ce foulard à une présence d'un islam fondamentaliste. Alors bon nombre de personnes portent le foulard. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de relation de cause à effet entre porter un foulard et d'être fondamentaliste et je ne sais quoi. Donc d'une part. Et deuxièmement, la phrase qui dit « Vous ne justifiez pas d'une intégration républicaine dans la société française conformément à la réglementation en vigueur ». Je ne vois pas de quelle réglementation en vigueur on est en train de dénoncer à travers cette argumentation qui dit, je ne sais pas, il y a une réglementation qui précise que les femmes qui portent un foulard ou un béret ou une perruque ou je ne sais quoi, qui portent quelque chose sur les cheveux, eh ben, ne font pas partie, ne s'intègrent pas dans la société française, ne font pas partie intégrante de la société française. Je trouve ça extrêmement scandaleux et j'avais voulu donc, pour démarrer cette émission, bah, de préciser, de crier au effort à cette injustice. C'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de l'énoncer déjà, et au mieux par la suite, bien sûr, pouvoir y remédier. Mais en tout cas, sensibiliser un maximum de personnes, c'était le but de commencer par ces deux articles. Voilà, Ahmed, j'ai empiété sur un petit peu quelques minutes, mais il me semble important d'avertir les auditeurs et les auditrices sur ce qui se passe dans notre pays. Il y a encore malheureusement un racisme qui s'institutionnalise, c'est ça qui est délicat, un racisme qui s'institutionnalise, les institutions font de près ou de loin du racisme, et ça c'est extrêmement scandaleux. Donc voilà, 03 73 59 00, ça c'est le numéro du standard. On va revenir au débat de ce soir, c'est Ahmed, donc je pense qu'on va y revenir pendant l'émission, hein, puisque ce soir on va s'intéresser à un verset particulier répété maintes fois par l'ensemble des musulmans, au moins 5 fois par jour, plus de 5 fois puisqu'on le récite plus d'une fois dans une prière. C'est le verset 5 de la sourate Al-Fatiha, donc le verset 5 qui précise Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc déjà on va traduire ce verset, on va le commenter. Et pourquoi avoir choisi ce verset? Je te laisse la parole. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous implorons secours, que nous demandons aide. Donc voilà, ce verset. Je te laisse le plaisir de pouvoir nous éclairer sur ce verset.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على حبيبي ونور القلب محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر الحاقدين وشر المؤذين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخشيخ سوغي فخيخ وديتوري وديتريس وشيغامي كنوز اكوتي سسواخ. Certes, ces informations que nous a partagées Aïssa, donc c'est des informations bien sûr qui ne nous certes elles nous choquent de plus en plus, mais les difficultés dans lesquelles vivent dernièrement des musulmans et surtout des gens qui sont issus d'une certaine immigration maghrébine, par rapport aux clichés comme tu dis, par rapport à ce qui s'est passé dans la banlieue parisienne, et puis ça s'est propagé de partout. Mm-hmm. Par la suite, Dieu merci, dans notre région il y a eu peu d'émeutes et de voitures brûlées. Et surtout dans notre métropole, alhamdoulilah. Mm-hmm. Cela prouve aussi une chose très importante que j'avais dit dans mon prêche du vendredi aujourd'hui, c'est que, comme le disait et nous l'a dit un homme politique qui nous a rendu visite une fois, l'église islamique du Nord. Mm-hmm. Il connaît un petit peu quelques langages arabes. Mm-hmm. Il nous a dit, le Nord, ça ressemble au mot Nord en arabe, mm-hmm. hier. Et la région en France qui est, ou dans laquelle il y a quand même une population importante maghrébine et musulmane, c'est celle du Nord. Mm-hmm. Aussi, si on parle de région ou de ville dans laquelle il y a plus de chômage et d'érémie, la ville des érémistes, c'est Denain. Mm-hmm. C'est le Valenciennes.
Dans le Valenciennes, ouais.
C'est le Nord. Mm-hmm. Là où il y a beaucoup plus de chômeurs, dans la métropole, c'est Roubaix. Et tout ça, c'est parce que la région, cette région-là était très riche à l'époque. Mmh. Elle s'est appauvrie à cause du fait que les usines se sont arrêtées, elles ont fermé leurs portes. Et puis, les mines aussi. Mmh. Et les gens sont au chômage. Mmh. Ces gens-là, pour la plupart, sont d'origine maghrébine, qui sont venus s'installer ici pour aider et promouvoir au bien-être de notre pays. Et qui ont bien sûr agi ainsi, mmh. Qui ont enrichi l'économie française depuis plusieurs années, mmh. puis qui ont permis à ceux qu'on appelle les Blancs, ou ceux qu'on appelle, comme tu dis tout à l'heure, les Français de souche, d'aller à l'école. L'école de la République, certes, c'est une idéologie, mais l'école de la République aussi, c'est des murs, c'est des stades, c'est des locaux, et quand on regarde ceux qui ont travaillé là-dedans, ce sont des gens qui sont venus, des immigrés, qui sont venus construire pour permettre à, comme disait un pseudo-intellectuel, permettre à Michel, donc c'est pas la peine de cacher son nom, c'est Finkielkraut, mm-hmm. qui disait que ces gens-là dérangeaient Monsieur Michel, mm-hmm. oubliant que Michel, comme Finkielkraut lui-même, qui ne connaît pas la banlieue, il n'a jamais mis les pieds en banlieue et il ne sait pas de quoi il parle, comme Dalil Aboubakar aussi, qui ne sait pas de quoi il parle parce qu'il n'a jamais mis les pieds en banlieue et savoir ce qui se passe en banlieue, ni dans les mosquées de la banlieue, mm-hmm. Ni il a rendu visite aux musulmans de la banlieue. Cette personne, qu'est-ce qui lui a permis d'aller à l'école et de ne pas connaître la misère à l'époque, mmh. et si ce n'est l'arrivée massive de ces immigrés qui se sont occupés à construire ce pays à leur niveau. Mmh. À leur niveau. Donc, bref, tout ça, bien sûr, ça nous donne une amertume, ça rend un petit peu la vie amère, ça nous fait peur pour notre pays, parce qu'il faut l'avouer, les musulmans, normalement, là où ils sont, ils doivent s'occuper par le bien-être de leur entourage, car l'entourage du musulman, s'il vit dans le bien, le musulman le partage avec lui. Mmh. Il ne peut pas, le musulman, vivre le bien-être tout seul. Impossible, parce qu'il fait partie de son entourage. Et j'ai toujours dit que là où nous sommes, nous, on est dans le même bain. Notre bain sur nous, si elle est brûlante, on brûle aussi, mmh. comme les autres. Mmh. Si elle est trop froide, on va friner, comme les autres. Mmh. Si elle est selon notre rythme et notre besoin, on aura notre besoin, comme les autres, ils ont leur besoin. Donc le musulman doit bien sûr agir à ce que ce soit ainsi. Et certes, de plus en plus, on découvre que, avec le temps, que ce qui a été crié au début de ces émeutes n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Le fait qu'on a commencé à parler de d'actes d'intégristes et de fondamentalistes qui se sont occupés des jeunes, qui ont poussé les jeunes à faire ce qu'ils ont fait, des extrémistes. Bon, il faut savoir quel extrémisme est-ce que celui de l'extrême bonne droite ou l'extrémisme tel est le cliché qui parle de l'islam, mm-hmm. tel que l'a dit un homme politique, ex-premier ministre, mm-hmm. Pour qui certains musulmans à l'époque disaient il faut voter positif, voter pour lui. Cet homme qui a dit dernièrement dans une émission à la télé, mm-hmm. Sur la 3, il a dit que le christianisme a apporté la foi et la spiritualité depuis qu'il a connu son apogée et son émergence, et l'islam qui date depuis 15 siècles, il n'a rien apporté de plus. Subhanallah, gloire à Dieu, il a cassé, il a négligé toute une histoire. La personne qui était face à lui lui a rappelé ce qu'il a dit dans son livre, c'est que l'islam, soi-disant, comme il dit lui, l'islam a connu sa renaissance avant de connaître sa chute. C'est pas comme le christianisme qui était dans la chute et après il a connu la renaissance. Mais on oublie une chose importante que cette personne face à cet homme politique a rappelé, c'est un philosophe qui lui a rappelé, c'est que c'est grâce à l'islam que l'Occident a connu sa renaissance. Et c'est à cause de l'Occident que les pays arabes musulmans ont connu la décadence à cause de l'impérialisme imposé. Donc aujourd'hui,
l'impérialisme qui est passé par la colonisation,
c'était une horreur. Alors aujourd'hui, il y a un regard intellectuel franco-français et aussi politicien sur les événements, un regard colonialiste qui nous fait rappeler le colonialisme. Et donc qui nous fait rappeler aussi les chansons de Roland à son époque, qui disait des mensonges. Donc c'était les médias de l'époque, comme de nos jours, les médias de nos jours, qui disent des mensonges au sujet de l'islam, les sarrasins, sarraqin, les voleurs, ils vont venir massacrer, tuer, détruire, piller, brûler.
Les pirates.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, d'une autre manière. Et puis après, traiter ces jeunes-là et traiter ces personnes-là, soi-disant trouver des solutions, les traiter comme on a traité à l'époque de l'occupation et le colonialisme du Maghreb, on a traité les Maghrébins et les Africains de nègres et ainsi de suite, et d'autres titres qu'on leur donnait. Donc bref, tout ça, ça crée une amertume au sein des citoyens. Ça crée aussi une opposition entre les communautés et ça crée le communautarisme lui-même. Alors que certaines personnes qui nous disent qu'il ne faut pas faire du communautarisme sont en train de au contraire, de l'inculquer et de pousser jusqu'au bout ce fait.
Il est juste.
Toi, tu as parlé de personnes qui ont commis ces délits. Nous, on a entendu aussi des voitures brûlées, des camions, et ainsi de suite, de personnes issues de l'immigration, qui ont perdu leur voiture, leur camion, eux aussi. Et donc, il ne faut pas... Ça, le problème, c'est les amalgames et les clichés qui n'arrêtent pas. L'essentiel, c'est que la vérité éclate. Toujours, elle éclate, mais nous, on ne joue pas la victimisation. Et on ne doit pas le jouer. On n'est pas une communauté qui va se construire sur la victimisation. Pas du tout. Ça, c'est une autre communauté qu'on connaît. On n'a rien à voir avec elle. Nous, au contraire, on est citoyens et on doit le crier haut et fort. On ne doit pas se distinguer par une race ou par une communauté ou une appartenance à une communauté. Il faut qu'on se distingue par le fait qu'on est des bons citoyens et qu'on veut le bien pour notre pays. Crier haut et fort un droit et utiliser des manières pour répondre à l'ignorance par l'ignorance, ça ne peut venir que de l'ignorant qui ne connaît pas l'islam. Et ces jeunes-là et ces personnes adultes qui ont commis ces délits et qui ont brûlé les voitures et qui ont cassé ne se sont jamais revendiqués de l'islam. Personne ne peut aller dire ce mensonge. Ces gens-là, ils se sont revendiqués de l'islam. Alors, il faut qu'on fasse attention. Nous, ce soir, on va essayer de discuter autour du verset 5 de la sourate Al-Fatiha, la préliminaire, pour apporter des réponses à nos frères et sœurs qui partagent avec nous, premièrement, notre appartenance à l'humanité, notre appartenance à la confession de l'islam et notre appartenance à notre nation de France. leur rappeler une chose importante et leur apporter une réponse à ce qui arrive, c'est qu'il faut calmer les choses, mm-hmm. il faut voir plus loin que son nez, il faut construire l'avenir et ne pas rester à discuter autour de quelque chose qui s'est passé, mais essayer d'aller encore, de faire un pas vers l'avant et non pas rester toujours à passer le temps à discuter de ça, mm-hmm. Jusqu'à ce que certains qui sont parmi nos concitoyens des produits du 20h font des problèmes autour d'eux, ils agressent, ils insultent des gens juste parce que ils portent une barbe ou un foulard ou parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Khadija, mm-hmm. et on l'agresse, on le regarde d'une manière bizarre quand il passe à la caisse, pourtant quand il passe à la caisse et il donne à la caisse, c'est lui qui paye. Et puis on le regarde bizarrement aussi quand il conduit, il s'arrête au feu rouge, alors qu'on oublie qu'il conduit comme tout le monde et qu'il paye son assurance et qu'il a, il a mérité de conduire, mm-hmm. sinon il n'aurait pas une voiture pour conduire, et ainsi de suite. Donc tout ça, donc les médias jouent un rôle important pour aujourd'hui créer cet amalgame comme ils l'ont fait auparavant, mm-hmm. et je pense qu'ils le feront toujours. Et c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils se réveillent un jour. Il faut qu'ils se réveillent un jour et qu'ils fassent attention. N'oublions pas, quand une femme folle, elle a crié qu'elle a failli être violée et qu'on l'a tabassée et que c'était des jeunes issus de l'immigration, comme elle les a décrits, les musulmans, africains, ils disaient Allah, ils disaient tout ça. Mm-hmm. Ça y est, les hommes politiques, les pseudo-intellectuels, médiatiques, tout le monde a... Mm-hmm. Parce que on a, ça y est, on l'a traité de juif, antisémitisme et baratin sur lequel on dort et on se réveillait à l'époque. Mm-hmm. Et après, on découvre que c'est une folle et qu'il n'y a rien eu de tout ça. Mm. Un centre social juif, on a découvert ça, on ne savait pas que les juifs avaient des centres sociaux. Mm-hmm. On ne sait pas si nous, les musulmans, on a le droit à avoir des centres sociaux à nous. Et on parle de communautarisme, mm-hmm. hein, faut faire attention, mm-hmm. c'est qui vous revendique le communautarisme. Le centre brûle, on inculpe qui ? Rien, sans qu'il y ait d'enquête, rien du tout, c'est des musulmans qui ont fait ça, mm-hmm. des extrémistes qui ont fait ça. Et qui c'est qui rend visite à ce centre ? Ministre des Affaires étrangères israélien. Mm-hmm. Qui c'est qui parle du chef de l'État jusqu'au maire ? Mm-hmm. Et tout le monde désigne l'islam et les musulmans. Par la suite, on découvre que c'est quelqu'un qui travaille dans le centre, qui est juif aussi. Et c'est lui qui a fait cela pour se venger, je ne sais pas de quoi. Donc il faut, un jour il faut dire, il y en a marre, il faut arrêter. Il faut arrêter ces clichés, il faut arrêter ces inculpations, ces fausses inculpations, ces grands mensonges. Et qu'on oublie les chansons de Roland Monteur pour monter le... De plus en plus haut ces amalgames et ces discriminations, mm-hmm. À la va-vite. Le verset qu'on doit, Inch'Allah, on commencera après la pause, mm-hmm. qu'on doit étudier aujourd'hui, c'est le verset qui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, ô Allah, uniquement, et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons refuge. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs qui m'écoutent, si vous vous sentez mal à cause de ce qui se passe, ben c'est normal. Vous êtes des êtres humains, comme tous les êtres humains. Mais sachez que vous êtes différents. Vous devez dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Vous verrez ce que ça va faire, Inch'Allah.
Donc là, fait que pour ce préliminaire, et effectivement, rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'il faut crier haut et fort à l'injustice et au mensonge, qu'il faut bien sûr raison garder, chercher l'apaisement, mais tout en ne laissant pas l'injustice, quelle qu'elle soit, se répandre dans notre pays. Sur le verset que tu as cité, on va y revenir tout de suite après la pause. Farid, tu... Abdelbassal Abdelsamad, bien entendu. Et on va aborder donc 21h l'explication un petit peu du verset qui va nous servir aussi de réconfort hein, dans ces moments difficiles. Un verset qu'on récite régulièrement, peut-être sans un petit peu, enfin, je dirais même peut-être souvent inconsciemment et par lassitude. Et il est bon de revenir un petit peu sur le sens profond de ce verset. Il y a qu'un arbre et il y a qu'un astérin. Juste rappeler avant que tu développes, Sermed, rappeler aux auditeurs et aux auditrices qui peuvent bien sûr nous poser des questions 03 20 73 59 00. D'ailleurs, il y a des questions qui nous ont été communiquées hors antenne. On se réservera d'ici un quart d'heure, 20 minutes. On va quand même développer le thème. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, on pourra commencer à y répondre. Donc, gardez vos questions d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et on fera la séance questions-réponses après le thème. Vas-y, je t'en prie, c'est Ahmed. Donc, il y a qu'un aboudou ou il y a qu'un esterim.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala wa sahbihi wa ala. Ce verset-là qui se situe bien sûr à peu près au milieu de la sourate Al-Fatiha, la préliminaire, cette sourate dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith Qudusi, hadith divin, dans lequel Allah exalté soit-il loué s'adresse à ses fidèles en leur disant que cette sourate elle est partagée en trois parties. La première partie elle est pour Allah, la deuxième partie elle est entre Allah et le fidèle. Et la troisième partie, elle est pour le fidèle, celui qui récite cette sourate. Et donc la première partie, comme vous savez, elle parle des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il est. Et aussi, la dernière partie parle de l'invocation qu'utilise le musulman en récitant cette sourate pour chaque raka'a et en demandant à Allah guider pour tous les musulmans. Une guidée. Guide-nous dans le droit chemin, celui des gens que tu as comblés par tes biens, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui ont dévié le chemin. Et donc ça, c'est une invocation, elle est spéciale pour le fidèle. La première partie, elle est spéciale pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui, bien sûr, elle parle des attributs de Dieu, on le loue, on montre sa majesté, et en même temps, on cite ses noms et ses attributs, c'est une adoration en répétant et en faisant dhikr par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait cette invocation. Toute invocation qui doit être exaucée normalement doit être entourée de circonstances d'exaucation de cette invocation. Pour qu'Allah exauce une invocation, il faut qu'il y ait des circonstances. Les circonstances tournent autour de trois choses. L'état de l'individu, le lieu dans lequel il se trouve et le temps qu'il passe à faire l'invocation. Et donc, il faut choisir l'état adéquat pour faire l'invocation. Il faut choisir le lieu et il faut choisir le moment. Dans la journée et la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur moment que le moment de la relation ou le rendez-vous avec Allah qui est la prière. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette sourate soit récitée pour chaque rak'a obligatoirement dans les cinq prières obligatoires et les prières aussi volontaires ou si vous voulez surrogatoires. L'essentiel c'est de savoir que ce verset là était à la base de l'écriture d'un livre de trois volumes d'à peu près 2000 pages de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ce livre là a été résumé par le même imam, le même savant. Il a fait Tahdhib, c'est à dire qu'il a fait le premier livre qui est à un certain niveau, d'accord, et il ne peut être compris que par des gens qui ont ce niveau. Puis après, quand il a découvert que ce livre là n'est pas fait pour tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a résumé et il a réduit le niveau et il a baissé le niveau en fait pour que ce soit accessible pour les autres personnes. Et le résumé en un seul volume, il a été traduit, édition universelle. Ils ont traduit le titre par Les Sentiers des Itinérants. Ce livre-là, si vous ne l'avez pas, mes frères et sœurs, mes amis, dans votre bibliothèque, il faut que vous l'ayez. C'est un très beau livre qui a été bien traduit et qui enrichira votre manière d'agir et de faire, et en même temps enrichira vos nuits, vos jours quand vous lisiez, inchallah, chapitre par chapitre, car il parle de sentiers, de stations, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se base sur ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est l'exégèse de ce verset dans ce livre. Ce verset-là, quelle est son utilité aujourd'hui? Alors que normalement, il doit être utile tout le temps. D'accord? C'est que nous, souvent, on oublie. Et d'ailleurs, Allah nous a donné un titre, c'est que nous sommes insan en arabe. Insan, c'est-à-dire celui qui oublie, la créature qui oublie. Et notre père Adam, quand il a touché à l'arbre, interdit ainsi que son épouse Ève, Allah a cité la raison, la cause de... Qu'est-ce qui a fait que Adam touche à cet arbre? Il a cité le fait qu'il a été interpellé par le démon, Shaitan. Lui et son épouse, Shaitan leur a embelli le fait de toucher à cet arbre. Mais en même temps, en discutant avec eux, au fond de eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient pas serpents, comme le dit la tradition judéo-chrétienne, en islam, non, pas du tout. Ce n'est pas la femme qui a goûté à la pomme, et puis après, elle s'est embellie pour l'homme, elle l'a poussée, et donc elle était l'élément, ou si vous voulez, l'arme fatale du diable. Ce n'est pas vrai, l'islam dit que c'est faux, cela. Qu'ils sont à égalité
par rapport au
péché, voilà, et tout ça, mais le responsable c'est Adam. Le responsable du couple c'est Adam. C'est pour ça qu'Allah s'adresse à lui. Et donc, Allah a dit dans la sourate Taha que Adam alayhi salam avait oublié. D'accord ? Il dit subhanahu wa ta'ala, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il a oublié, mais il n'a pas fait d'effort pour se rappeler. C'est pour ça qu'il a été blâmé. C'est parce qu'il n'a pas fait l'effort. Par contre, l'oubli, il est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous, si on rappelle aujourd'hui, c'est un rappel. Parce que le temps, l'espace, l'état dans lequel nous sommes suscite et nous oblige et nous appelle à faire le rappel. C'est pour ça Allah azza wa jalla dit, فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى. Et rappelle quand le rappel est bénéfique. Quand, ça veut dire le temps, le lieu et l'état dans lequel les gens y sont. Car des fois, on peut faire un rappel dans un lieu qui n'est pas fait pour faire le rappel, comme ceux qui allaient dans les cafés pour appeler les gens à l'islam. Et des fois, ils se faisaient insulter, on leur crachait dessus, on leur jetait sur eux de l'alcool et on les chassait avec des carabines. Et parce que le lieu n'est pas fait pour ça, pour faire le rappel. Et l'islam nous interdit ce fait. On ne doit pas frapper aux portes ou rentrer dans les bars pour faire le rappel. Il faut choisir le temps, le lieu et l'état dans lequel les gens sont prêts à nous écouter. Ce soir, on parle de ce verset. Ce n'est pas parce que on n'en parle jamais. Vous en parlez tous les jours quand vous priez, mes frères et sœurs. Vous le récitez tous les jours. Lakin, mais on oublie, on se lasse, ça devient une routine. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. Alors qu'auprès de ce verset, on a notre bonheur. Aujourd'hui, on passe par des dilemmes, des difficultés. Ce verset-là répond à nos difficultés. Répond à notre stress, à nos problèmes au quotidien. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, premièrement, sache que tu n'as dit cela qu'après avoir cité les noms et les attributs d'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Je ne commence mon adoration que au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'accord ? Donc, ma vie, ma mort, mes sacrifices, mes adorations, ma prière sont vous et pour lui. Je ne suis que ce qu'il veut de moi. C'est toi que je veux par ce que tu veux, en s'adressant à Dieu. Et donc je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma journée, elle commence par ce fait. Je commence ma journée par le Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La surat, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Je loue Allah. La louange, c'est le plus haut degré du remerciement, mon frère, ma soeur. Certes, on remercie Allah, mais on peut remercier l'être humain aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas la créature ne remercie pas le créateur. Par contre, Allah, on ne doit pas lui dire merci Dieu. On doit lui dire louange à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. On ne dit pas Ash-shukr lillah, on dit Alhamdulillah. C'est le plus haut degré de Ash-shukr, du remerciement. Puis après, Lillahi Rabbil Alameen, je reconnais que c'est Allah, le créateur des mondes, l'Alameen, tout le monde. Et donc je fais partie de ce monde. Et donc à ce moment-là, si c'est lui mon créateur, c'est lui qui subvient à mes besoins. D'accord ? Mm-hmm. C'est lui qui m'ordonne. C'est lui qui me prescrit. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui subvient à mes besoins. C'est lui qui a créé la terre et les cieux pour mon arrivée. Et donc, je dois être conscient de cela avant de dire « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in »« Alhamdulillahi rabbil alamin »« Ar-Rahman ar-Rahim » »« Ar-Rahman ar-Rahim » notre miséricordieux, très miséricordieux. « Maliki yawmiddin » roi ou possesseur, si vous voulez, du jour de la rétribution. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je reconnais à Allah l'ultime royauté, et toute possession n'est faite que par son autorisation. Et donc, il a autorité sur toute chose, subhanahu wa ta'ala, et il est au-dessus de tout. Tout a besoin de lui, et lui n'a besoin de rien et de personne. Et après, qu'est-ce que je dis? Maliki yaumiddin. Donc, c'est lui qui possède la fin, le jour de din, le jour de la religion, ou si vous voulez, le jour des dettes, parce que ça a deux sens. Le jour de la religion, parce que ce jour-là, il n'y aura que des croyants, tout le monde va, personne ne serait mécréant, et puis c'est le jour où on doit rendre les dettes. Et donc, yaumiddin, et donc, puisque c'est lui qui possède, et c'est lui le roi de ce jour-là, c'est que c'est lui qui possède le premier jour. Celui qui possède la fin, il possède aussi le début. Et donc, s'il possède le début et la fin de toute chose, donc il possède le début et la fin de moi en tant que chose parmi les choses. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il faut que je me remets entièrement à lui. C'est pour ça que nous, quand on explique l'islam, on dit, c'est faux, il ne faut pas dire, c'est la soumission. L'islam, c'est le fait de s'en remettre à Dieu. Mm-hmm. C'est être fidèle à Allah, à Dieu subhanahu wa ta'ala, par amour. Parce que celui qui aime quelqu'un, il lui est fidèle. Il lui obéit. Certes, selon ses possibilités, c'est ce que demande Dieu. Et donc ici, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pourquoi je vous dis tout ça, mon frère, ma soeur? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons à cause de ce qui se passe autour de nous, que ce soit au sein de notre pays, cher pour nous, ou que ce soit partout dans le monde, un monde qui est cher aussi pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'en remettre à Dieu. On doit faire un retour à Allah. Chacun d'entre nous doit se poser la question, si aujourd'hui il arrive ce qui arrive, si aujourd'hui ma voiture n'a pas brûlé, la voiture du voisin ou de celui qui habite à Saint-Denis a brûlé, si aujourd'hui je n'ai pas été insulté, et un tel, il a été insulté. Si aujourd'hui, on ne m'a pas refusé ma pièce d'identité, alors que cette femme, on lui a refusé sa pièce d'identité. Si aujourd'hui, je n'ai pas été interpellé, ni emprisonné, ni inculpé de tort et à travers, alors que certains l'ont vécu. Et donc, à ce moment-là, je veux dire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin, c'est lui qui me possède. Il m'a protégé. D'accord ? Mais autre chose, c'est de savoir que je ne suis pas sûr de ce qui peut m'arriver demain. Il se peut que ça va m'arriver. Alors il faut que j'adore Allah comme il le faut, dans son unicité et à travers son unicité et pour son unicité, afin que je puisse bénéficier de sa protection. Et c'est ça le sens principal de « c'est toi que nous adorons uniquement, et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons refuge. » C'est-à-dire grâce à ton adoration et à travers l'adoration que nous avons pour toi, qui est une prescription venant de toi, nous cherchons notre refuge. C'est-à-dire notre refuge est dans ton adoration. Et dans ton adoration, il y a l'amour que nous portons pour toi. Et l'amour que nous portons pour toi, c'est un amour qui engendre l'amour pour ton œuvre. Et parmi ton œuvre, il y a moi. Et parmi ton œuvre, il y a mes semblables. Et parmi ton œuvre, toute autre créature. Et donc, tous ces sens-là, il ne faut pas les oublier quand on récite ces versets-là, alors que nous les récitons tout le temps, tous les jours. Et il ne faut pas aller se dire, c'est pas la peine de la répéter, de réciter, de relire. Et si je lis, c'est tout. Non, il faut que je revoie, je relis les textes d'exégèse. Wallah, mes frères et sœurs, quand on lit et on relit les textes d'exégèse, on découvre des choses à fur et à mesure. Des fois, on lit et on est préoccupé par autre chose, et on passe à côté de quelque chose de très beau dans l'exégèse. C'est pour ça qu'il faut relire encore et relire encore. Ne pas se référer uniquement à un livre. Chercher encore d'autres, dans d'autres livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout l'exégèse, ce qu'on dit nous, tafsir al-amali, l'exégèse pratique. Pas prendre uniquement ce qui est théorique. Mm-hmm. Faut voir des savants de l'islam qui ont fait dans leur exégèse des exégèses pratiques. Ils te montrent comment il faut faire pratiquement, mm-hmm. réellement.
Du concret.
Du concret, surtout des savants contemporains. Mm-hmm. Et donc, tous ces sens-là, si moi aujourd'hui j'ai pu en parler, c'est parce que j'ai été me référer, j'ai lu, j'ai étudié, mm-hmm. et j'ai essayé de faire le lien. Et chacun d'entre nous est capable de le faire, selon son moyen, selon son rythme, inshallah ta'ala. Mais, mm-hmm. premier point aujourd'hui à connaître, on va voir d'autres points à travers ce verset, c'est que ce verset-là nous interpelle sur le fait que nous sommes une chose parmi les choses. Une créature parmi les créatures, et que celui qui possède la fin de ces choses, il possède notre fin comme il possède notre début, et celui qui nous a protégés et qui n'a pas protégé autrui est capable de ne pas nous protéger, il est capable de tout faire, subhanahu wa ta'ala. Alors nous, on cherche refuge, protection auprès de lui, et comment? Dans son adoration et en étant fidèle à lui, subhanahu wa ta'ala.
Voilà, fait pour cette première exégèse du verset, on va. Donc, de retour sur les ondes du Pasteur FM, 99.4, France, fréquence métropole, fréquence de modulation, 21h22. C'est Farid qui est la technique et qui va nous rejoindre directement sur les ondes. Tu t'occupes ce soir de la technique et du téléphone avec Dahman, qu'on salue. Un certain nombre de questions qui étaient posées en antenne.
Donc je reprends dans l'ordre des questions. Elle concerne un peu le ramadan, enfin les périodes de jeûne. Une personne dit que son mari souhaite faire les 6 jours. Il a arrêté de fumer, donc il a pris des patchs. Est-ce que le fait d'avoir un patch rompt son jeûne, ou est-ce que ça annule en fin de compte le fait de jeûner?
Pas du tout.
D'accord.
C'est une bonne initiative. On l'appelle, on lui dit tiens bon, et débarrasse-toi de la cigarette.
Donc cette personne, c'est une maman en fin de compte qui a eu un enfant durant le mois de Ramadan. Elle n'a pas pu jeûner puisqu'elle l'a allaité. Mmh. Et donc aujourd'hui, ça fait 40 jours qu'il est né, donc elle souhaite maintenant elle souhaite jeûner maintenant, rattraper ses jours. Le problème, c'est que parfois elle a des saignements, parfois elle n'a pas des saignements entre deux jours, donc elle doit savoir comment ça se passe dans ce cadre-là, son jeûne. Est-ce que le jour où elle jeûne, elle prévoit pas, enfin, deux fois elle a des saignements, elle ne sait pas, deux fois elle n'en a pas. Et...
Elle jeûne quand elle doit prier, quand elle doit faire la prière.
D'accord.
Et donc, tout simplement, puisque la prière, c'est une adoration journalière. Le jeûne, elle rattrape quand elle peut, durant sa vie, et ce qu'il lui reste de la vie. Donc, elle doit prier et jeûner dès que le saignement s'arrête. Et ces saignements-là, s'ils dépassent la période habituelle qu'elle a, le cycle habituel qu'elle a de menstrues, elles font partie de ce qu'on appelle la métrorragie. C'est hard. Et donc, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle fait les petites ablutions pour chaque prière et elle jeûne normalement. D'accord. Elle peut avoir des rapports intimes avec son mari sans problème. Il faut juste qu'elle se nettoie.
Donc, toujours qu'il y ait des questions qui ont trait avec le jeûne. C'est une personne qui téléphonait, donc qui était en train de. Donc, avant le ramadan, j'emploie des termes mathématiques, ça fera plaisir à Aïssa. Avant le ramadan R, c'est-à-dire c'est le ramadan de cette année, donc elle faisait des jours du ramadan R-1. Elle avait 20 jours à rattraper, elle en a rattrapé sur 6 jours, elle est tombée malade, donc elle n'a pas pu les terminer. Mm-hmm. Le ramadan cette année est venu, mm-hmm. donc elle n'a pas pu non plus jeûner, elle était malade. Donc
comment faire?
Comment faire? Donc est-ce qu'elle doit rattraper donc ces 20 jours de l'année dernière?
Mm-hmm. Ce qui restait des 20 jours, puisqu'elle a fait
14 jours.
Exactement,
on a suivi.
Bien sûr, elle doit rattraper quand elle pourra. attraper. Le verset 185 de la sourate 2 le dit. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou qui a entamé un voyage, il rattrape dans d'autres jours plus tard. Donc, plus tard, toute la vie. Hein, c'est pas limité par le ramadan prochain. Il y a des savants qui l'ont dit, mais ils n'ont pas de source. Les savants, ce qu'on appelle muhaqqiqoun, les savants, jurisconsultes et fuqaha, ils ont dit non, il n'y a pas de source là-dedans. Le verset est clair et il reste dans, dans la généralité, quand elle peut la personne, Inch'Allah.
Et donc, en fin de compte, cette personne, donc, on lui avait raconté que, on lui avait dit donc, qu'il faut payer un repas à un pauvre, 5 euros, donner 5 euros pour chaque jour. Donc, en tout, elle devait, donc la personne dit qu'elle devait, elle avait quelqu'un, elle devait 75 euros, elle a donné 100 euros. Qu'en est-il de ces 100 euros?
La sœur, Inch'Allah, par le fait que ces gens-là lui ont posé la question, lui ont répondu et lui ont dit ce qu'elle devait faire, sans savoir, ils ont dit ça par ignorance. Une femme qui allait ou une femme enceinte, elle rentre dans le cadre des personnes qui sont citées dans le verset 183 de la même sourate, sourate 2. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Est-ce que ces gens-là rentrent dans ce cadre-là? Non, ils ne rentrent pas dans ce cadre. Ils rentrent dans le cadre du malade. Et le malade, normalement, il ne nourrit pas. Il rend le jour, uniquement. Il ne nourrit pas le pauvre. Inch'Allah ta'ala. Donc, ce qu'elle a donné, Inch'Allah, c'est une sadaqa. Mais par la suite, il faut plus donner, Inch'Allah. Il faut rendre les jours jeûne par jeûne.
Dernière question donc, qui a trait au hijab. C'est une sœur qui téléphone, donc qui porte le hijab, donc qui parfois donc, rencontre d'autres sœurs qui ne le portent pas. Et en fin de compte, parfois, des discussions autour de l'obligation de le porter ou de ne pas le porter. Donc elle dit de sa difficulté, en fin de compte, parfois face à certaines sœurs qui ne portent pas le hijab, qui lui tiennent le discours de dire ben moi écoute moi le hijab il est dans mon cœur, c'est pas parce que je porte pas le hijab que je suis pas musulmane. La difficulté de la sœur qui porte le hijab, elle dit comment on peut les sensibiliser à cette question du hijab, et est-ce qu'il y a une punition divine ou une sanction divine, je dirais, pour les sœurs qui ne portent pas le hijab? C'est sa question, en fait.
Donc, première chose, il y a une terminologie qu'il faut définir. Le mot hijab, déjà. Il faut qu'on cesse d'appeler la tenue vestimentaire de la femme musulmane hijab. Parce que le terme hijab, tel qu'il est cité dans le Coran, tel qu'il est cité dans les livres de jurisprudence musulmane, ne parle pas du tout. Ça ne veut pas dire la tenue vestimentaire. Hijab, ça veut dire un drap, un voile qui sépare entre personnes, entre les gens. D'accord? C'est un voile, c'est un drap. D'accord? Et il est cité dans la sourate, les colisées, concernant les femmes du professeur sallam qui devaient avoir une séparation vraiment d'un drap, d'un rideau, entre eux, entre elles et les hommes étrangers à elles. Par contre, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, il faut l'appeler de cette manière, la tenue vestimentaire. D'accord. Si cette sœur, la tenue vestimentaire, elle a une règle générale, d'accord, dans laquelle s'inscrit tout ce que la femme musulmane peut porter. Cette règle générale, c'est que l'habit doit être large, ample, pour ne pas décrire la forme, et mat, pour ne pas décrire la couleur de la peau. C'est-à-dire, il ne doit pas montrer la forme du corps, ni la couleur de la peau du corps. Elle doit couvrir tout le corps pour la femme, tout le corps sauf le visage et les mains jusqu'au poignet. Tel le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Asma, la sœur de Aïcha. Le hadith, il est dans les sunnahs d'Abu Daoud et il est actuellement authentifié, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah agrée son œuvre. Donc ça c'est juste pour expliquer ce terme de hijab, qu'il faut faire attention, ne plus l'utiliser parce qu'il a été utilisé par les médias, par la préfecture pour dire un habit, l'habit des fondamentalistes ou des fondamentalistes. savoir que c'est un terme qui est utilisé d'une manière négative, mm-hmm. et quand nous on l'utilise, on reflète toujours cette image et cette connotation négative. Comme le terme fatwa. Le terme fatwa dans la littérature actuelle, ça fait référence à quoi? La fatwa de Khomeini, folle, cette folle fatwa de Khomeini à l'époque, concernant Salman Rushdie. Mm-hmm. Et donc depuis, le terme fatwa est devenu péjoratif. Alors que fatwa, c'est réponse à une question. Mm-hmm. Et il cite dans le Coran la fin de Surat al-Nisa, Estaftunaka fin Nisa, Qulillahu yuftikum. Il te pose, il te questionne au sujet des femmes, mm-hmm. Allah vous répondra à vos questions. Mm-hmm. C'est ça, fatwa. Fatwa, c'est répondre à des questions.
Barakallahu fik. Donc, pour la question, c'est.
Pour la question. Ouais. Maintenant, la réponse. C'est important de comprendre ça, Farid. C'est mm-hmm. très important. La réponse à la sœur, c'est qu'il faut qu'elle fasse attention à elle et il ne faut pas qu'elle soit prétentieuse et qu'elle croit que grâce à sa tenue vestimentaire, elle a, elle est tranquille et qu'elle a évité l'enfer et qu'elle est au paradis. Premièrement, elle, il faut qu'elle fasse attention. Mm-hmm. Ne pas tomber dans l'ostentation et la prétention mm-hmm. de croire qu'elle est au paradis et que l'autre, qu'elle, qui ne porte pas le foulard, elle est, à cause de ça, elle serait en enfer. Mmh. Donc il ne faut pas leur parler de ça à ces femmes, à ces sœurs musulmanes. Il ne faut pas leur dire vous allez y aller en enfer parce que mmh. vous ne portez pas le hijab et tout ça. Tel a cité le mot. Autre chose, c'est que la discussion autour de ce sujet ne doit pas être toujours sujet de discussion. À chaque fois que je suis avec ces personnes-là, je vais leur parler de la tenue vestimentaire. C'est comme si, il faut qu'elle fasse attention aussi, cette sœur, et d'autres sœurs pareilles qu'elle, c'est comme si je veux qu'elle soit comme moi. Mmh. Et non pas, il faut qu'elle veuille, elle, être fidèle à Dieu. Mmh. Alors moi, je conseille à cette sœur, c'est de passer par un autre passage. Mmh. C'est de leur parler de l'amour d'Allah. Mmh. Parler de la crainte de Dieu. Parler de l'espoir en Dieu. Leur montrer que leur référence doit être Dieu et non pas elle qui leur parle, mmh. qui est la référence à elle aussi, sa référence à elle. Dès que ces personnes-là vont s'attacher à Dieu, à ce moment-là, elles vont, si vraiment elles se sont attachées, elles vont lui obéir. Mmh. Et l'attachement doit être un attachement d'amour, leur faire aimer Allah, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est autre chose à rajouter concernant ce que je lui conseille. Troisième chose, elle pose la question, y a-t-il une sanction, y a-t-il... D'accord, oui, certes, il y en a. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dans lequel dit, je n'ai pas vu de mes jours deux sortes de personnes, et vous les verrez après moi, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux genres de personnes ne goûteront pas à l'odeur du paradis. C'est-à-dire qu'ils ne rentreront pas au paradis. Ils ne vont pas goûter à l'odeur du paradis de loin. Il a dit, l'odeur du paradis, elle se répand de loin, très loin. Mm-hmm. C'est qui ces deux genres de personnes? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, des hommes, regardez bien, des hommes, qui portent des fouets qui frappent les gens avec ces fouets. Donc la police et tout ça. On a vu dans des reportages des talibans le faire. Mm. Donc des gens qui passent dans la rue, la personne elle est en train de les frapper parce qu'elle porte un turban noir. Mm. Et ces gens-là, ce genre de personnes injustes qui frappent les gens injustement, ceux-là, bien sûr, ils ne goûteront pas à l'odeur du paradis. Ils parlent de fellation, ils parlent de musulmans, bien sûr, s'ils ne se repentent pas. Deuxième type, deuxième cas, il dit des femmes habillées comme déshabillées. Là où il y a là où il faut voir la tenue vestimentaire. Elle peut ne pas porter le foulard, mais être habillée correctement. Et une fille, une femme, elle peut porter le foulard et être habillée d'une manière contraire à l'islam. Mmh. C'est-à-dire, elle porte un foulard, mais elle porte un pantalon serré, une chemise serrée, on voit toute sa forme. D'accord ? Mmh. Et donc, il dit habillée comme déshabillée, sallallahu alayhi wa sallam. Et ma'ilat et mumilat, donc elle marche d'une manière à attirer le regard. Elle peut porter le foulard et la tenue vestimentaire musulmane, mais elle se parfume, elle se maquille, et il y en a. Il ne faut pas le cacher. Et elle sort, elle côtoie les hommes. Elle côtoie les hommes là où elle ne devrait pas côtoyer les hommes. Je vous donne un exemple, les marchés. Il y a des femmes qui, leur bonheur, c'est de tourner dans les marchés, c'est de faire les marchés. Ça, c'est leur bonheur. Et c'est un milieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un lieu de shaitan, satanique. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas les invocations qu'il faut dire avant de rentrer dans un magasin, dans un marché, et. Mm-hmm. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse très très attention à ce sujet, mes sœurs. Autre chose, c'est que le hadith nous dit, ces femmes-là ne portent pas de foulard, donc elles ont des cheveux coiffés, remontés vers le haut, comme la chevelure de la chamelle. Donc on voit la petite chevelure qui est sur la bosse du chameau, mm-hmm. qui remonte vers le haut, et ça existe de nos jours, le prophète ne l'a jamais vu mm-hmm. auparavant. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ces deux types de personnes ne goûteront pas à l'odeur du paradis, mm-hmm. qu'Allah nous en préserve tous. Mm-hmm.
Donc effectivement un sujet de assez délicat, mais la tenue vestimentaire, on l'a dit, important, mais c'est pas une fin en soi, c'est oui. pas un sujet de polémique, oui. et qui bien entendu autour de ça permet de, je veux dire, il y a d'autres façons d'amener les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parler déjà de notre créateur, les amener délicatement bien entendu, et qu'Allah nous guide et nous facilite toutes les voies qui mènent à lui, inchallah. On a un auditeur ou une auditrice, on va la prendre en direct. Oui, allô, allô, allô. Farid, tu peux nous lancer, allô ?
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bismillahirrahmanirrahim, Ahmed, j'interviens pour le sujet que tu avais commencé au départ.
Oui.
Oui, allô ?
Oui, allez-y, oui.
J'ai envie, parce que j'ai écouté un peu.
Oui, allez-y, parlez audiblement.
Oui, pardon. Alors, c'est pour seulement comprendre ce qu'Ahmed dit tout à l'heure. Il avait voulu développer.
Oui.
Et c'est vrai, il y avait aussi des actualités.
Oui.
Mais j'espère que je vais avoir un échange avec lui. J'espère. Mm-hmm. Pour partager ce qu'il veut transmettre. Et comme moi, je ne maîtrise pas bien. Je n'ai pas étudié profondément, mais... Je crois que j'ai appris quelque chose.
Mm-hmm.
Et c'est pour savoir, lorsqu'il veut nous faire comprendre que l'imam, c'est qu'on. C'est la. T'as envie de dire quelque chose ?
Oui. Bon, on a un petit souci, je ne sais pas si le téléphone est n'importe quoi parce que de temps en temps ça coupe. Ah, allô ?
Allô, oui.
Oui.
Je vais être prêt.
Oui, non, en fait, je ne sais pas parce que on a l'impression que le téléphone il. Cool. Oui, écoute, de temps en temps, alors, je ne sais pas si vous avez un...
C'est un fixe en principe, mais je crois que je vais essayer de toucher à...
Il y a peut-être la fiche qui, de temps en temps...
Je crois,
oui. Oui, voilà, là, on vous entend, allez-y.
Enfin, c'est pour y revenir un petit peu, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont actuellement... Parce que tout à l'heure, on a parlé d'une personne qui a été... qu'on a refusé son identité parce qu'elle porte un hijab.
Oui.
Et les actualités encore, on a parlé de... Des gens qui portent, comment ça s'appelle, le haram, les gens qui ont plusieurs femmes, enfin, on parle à la télé aussi, parce qu'ils disaient les musulmans, quoi.
Oui.
Je crois que ce que je veux dire par là, j'ai quelques petites sourates comme ça que j'ai envie de dire.
Oui.
Et j'espère qu'il va nous aider à les développer, parce que c'était dans l'histoire. Mm-hmm. Et l'autre. Ce que j'ai envie de dire à Hassan, parce que je crois, pour créer un dialogue avec ces gens-là, mm. Pour que je crois que la société dans laquelle on vit, la minorité qu'on est, comment on peut les remettre eux en question? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce que la minorité des musulmans, ou des gens qui ont la foi en général, mm. comment on peut influencer cette société qui rejette toujours l'huile sur le feu, mm-hmm. et qui pousse les gens à l'extrême.
Mm-hmm.
Alors, à mon avis, je crois que pour aller un peu plus loin, donc, oui. ce que je voulais dire, donc à travers nous, je crois que notre conscience qui est humaine
mm-hmm.
doit savoir que même dans ce pays-là, qui cherche, qu'ils ont un problème, moi c'est comme ça que je l'entends,
mm-hmm.
qui veulent désigner une conscience par un homme, et c'est ça la question. Et comment on peut
mm-hmm.
ne pas trop leur donner l'occasion
mm-hmm.
de ne pas répondre premièrement par la violence,
oui.
Et susciter en eux que c'est à eux de se remettre en question, même s'ils sont en nombre,
mm-hmm.
Parce que je crois, et je termine avec deux phrases,
oui.
Qui est d'un lutteur qui a, je me rappelle pas de son nom, mais je crois qu'il est connu.
Mm-hmm.
La démocratie,
oui.
Pour lui, il demande qu'est-ce qu'elle fait de ces minorités.
Mm-hmm.
Il a ajouté les barbares,
oui.
Ceux qui n'ont pas d'histoire et qui n'ont pas d'avenir.
Mm-hmm.
Alors je crois que la civilisation musulmane, voilà,
oui.
Et nous, la minorité musulmane qui est là,
mm-hmm.
On a un avenir avec eux, mais qu'est-ce qu'eux nous proposent à cette civilisation,
mm-hmm.
Wallah Alma, c'est pas ma question.
D'accord, bah, écoutez. Pour votre intervention. Donc on va bien sûr essayer d'en discuter. Et je veux dire, c'est le propos depuis très longtemps. Je veux dire, l'ensemble de nos émissions, même si on parle de beaucoup de spiritualité, de retour aux sources, il englobe aussi du pratico-pratique. Il répond à ce genre de questions. Juste une petite... Ahmed, avant que je te donne... moi, quand on parle de minorité... Moi, j'ai envie de dire, à un moment, on ne fait pas partie de la minorité, on fait partie de la majorité, parce que les valeurs qu'on défend, ce sont des valeurs universelles. Donc, on fait partie de la majorité.
On fait partie de l'ensemble.
Exactement.
Des citoyens de ce pays, et on est une composante,
mm-hmm.
parmi les composantes de notre pays, cher ami.
Mm-hmm.
Je ne m'inscris pas dans cette démarche et cette idéologie que reflète mon frère, de dire « eux et nous
mm-hmm. ».
Il faut qu'on cesse aussi de...
Il y a eux et eux.
Voilà,
Et nous, on fait partie de ces eux.
Qui sommes nous, mm-hmm. et qui sont eux. Non, maintenant, il faut essayer, inchallah ta'ala, d'aller vers le devant,
mm-hmm.
en se basant sur nos démarches vers la convergence. Il y a beaucoup de convergence. Et se pardonner les divergences, tant que ces divergences-là sont des efforts humains, pour arriver à une solution générale pour tout le monde. C'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Le musulman doit être un apaisement et une tranquillité. Et il doit être, bien sûr, un constructeur et organisateur, parmi les constructeurs et organisateurs qui agissent
mm-hmm.
pour le bien-être de son pays, comme l'ont fait nos parents. J'ai cité des exemples de nos parents quand ils sont arrivés ici en France.
Voilà, mmh. Charles. D'accord, fait juste pour compléter, on a quelqu'un d'autre. Oui, juste pour compléter, on avait dit tout à l'heure, effectivement, ne pas jouer le jeu de la victimisation.
Oui.
Ça, c'est une chose, à juste titre. Deuxième chose, moi, je pars du principe qu'on a à construire tous ensemble, y compris oui. Entre guillemets des non-musulmans, mais qui oui. partagent des valeurs qui sont communes, je veux dire, des valeurs de...
Quand il s'agit de ces valeurs,
oui.
On ne parle pas d'islam oui. et de non-islam.
Exactement. Donc, on a à construire avec l'ensemble des citoyens, quels qu'ils soient, des valeurs qui sont universelles et qu'on partage, bien entendu, que ce soit des valeurs de respect, d'honnêteté, de fraternité, de solidarité, d'échange, de dialogue, de rencontre. Ça, il n'y a aucun problème.
Et tout être humain est faillible.
Bien entendu. Maintenant, fait que Sermad, il y avait Farid qui voulait peut-être intervenir.
Je ne souhaitais pas intervenir, simplement préciser. La sœur, donc, qui avait posé la question sur le hijab, elle
voudrait intervenir.
Elle ne voulait pas intervenir.
Ça serait bien qu'elle intervienne. Ouais. Il y a des cas, il faut traiter à part.
J'ai pas bien posé la question. C'est les personnes qui l'interpellent. De toute façon, ton hijab, il sert à rien, car moi, je suis musulmane, et pourtant, car je fais pas de bêtises.
Mm-hmm.
C'est plus dans ce sens-là.
Elle est interpellée.
Elle est interpellée.
Voilà. C'est pas elle qui interpelle.
Voilà, donc, elle souhaite une réponse par rapport à ça, quoi.
Tu vois le problème.
C'est pas pareil.
Non, si elle a soeur, c'est elle qui est interpellée. Donc, on ne peut pas être interpellé que si on a agi d'une manière à être interpellé. Donc cette sœur, il faut qu'elle, elle, ou bien c'est elle qui a agi ainsi pour qu'elle soit interpellée, ou bien autour d'elle des gens qui portent cette tenue vestimentaire qui agissent ainsi. Alors ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure,
mm-hmm.
que la piété ne s'arrête pas à ce qui est apparent.
Mm-hmm.
Mais le prophète sallam, quand il a parlé de taqwa, il a dit at-taqwa hauna wa ashara ila sadrihi. Il a indiqué par son doigt sa poitrine. Il a dit la piété est là-dedans.
Mm-hmm.
Donc il ne faut pas s'arrêter à l'apparence parce qu'un tel, il a une barbe, qu'il est plus pieux que celui qui n'a pas de barbe.
Mm-hmm.
Alors que on inscrit l'islam dans une barbe. Alors que si on voit dans l'idéologie et la philosophie de, du monde dans lequel nous vivons, celui qui porte la barbe et celui qui ne porte pas la barbe, ce n'est plus comme avant. Maintenant, celui qui porte la barbe, c'est quelqu'un qui ne se rase pas. C'est quelqu'un qui ne va pas assez à la salle de bain. C'est ça yani le, l'image qui est donnée dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut faire attention à cela. Et il faut qu'on soit des gens amaniyim, des gens pratiques, et des gens ouverts, des gens accessibles, qui permettent ce lien. Le frère tout à l'heure qui nous a appelé, il a partagé avec nous un verset, barakallahu fih, très important dans surat les appartements. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Je le remercie, barakallahu fih, l'akh, il nous a rappelé ce verset qui dit: oh vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous peuple et communauté afin que vous vous entreconnaissiez. C'est à ça qu'appelle l'islam, à l'entreconnaissance et la communication. Et on ne peut pas communiquer si on est fermé aux gens.
Bien entendu, à rappeler aussi que la diversité, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque lui-même précise que s'il avait voulu créer une communauté unique qu'il adorait parfaitement, il en est largement capable. Et donc la diversité, c'est une volonté divine, et il faut bien sûr la respecter et bien s'ouvrir effectivement
et
l'utiliser, bien entendu. Barakallahu fik, c'est Ahmed, 21h46, dernière pause à mon avis avant la fin de cette émission, avant de passer le relais à GMF Tourcoing. Par rapport au verset, juste rappeler la référence que tu avais citée, Ahmed, donc les sentiers des itinérants, Ibn al-Qayyim.
Édition universelle.
Édition universelle qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, donc les librairies Saphir, rue de l'Épaule à Roubaix, ou dans le Vieux Lille, l'Olivier, enfin bref, toute librairie, je veux dire, c'est une référence et c'est un grand classique. Donc les sentiers des itinérants, Ibn al-Qayyim. On va reprendre un petit peu pour les 10 dernières minutes sur le pratico-pratique. 5 minutes, tu fais bien de préciser, on va pas déborder sur la mission qui suit. Juste en termes de permettre de d'approfondir et de pouvoir méditer pour le reste de la semaine sur ce verset.
On a ce qu'il faut, c'est que il faut qu'on sache que on a besoin d'être guidé au droit chemin. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que dans cette sourate, il y a bien sûr le lien entre lui et sa créature, en disant Inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons uniquement et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons refuge. Et l'invocation, c'est guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire que dans chaque prière, on récite cette sourate, et à travers chaque prière, on a besoin d'être guidé. Et donc, dans la journée, dans notre journée, mes frères et sœurs, on doit être guidé. Et on doit être exemple de guidé. Guide dans la guidée pour guider ceux qui ne sont pas guidés. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas été guidés. Et nous avons été guidés. Et donc, comme les gens ne l'ont pas été, il faut que nous pensons à ces gens-là. Et en pensant aux autres, je pense à moi-même. Et par ma guidée, je suis exemple et guide pour ceux qui cherchent la guidée. C'est pour ça, le Coran al-Karim, dans le surat du discernement, cite une invocation aussi qui est importante pour le couple, dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô Seigneur, fais que nos époux ou épouses, ça dépend qui c'est qui fait l'invocation, et nos enfants soient la beauté de notre vue. Et que nous soyons guides pour les pieux. Subhanallah. Et donc, dans le verset, dans son apparence littérale, c'est qu'on demande à Allah qu'il fasse en sorte que nous soyons des guides pour les pieux. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit plus haut et plus fort que les pieux, pour que les guidants, nous soyons guidés pour les pieux. Et c'est pour ça que les ulama nous disent, quand on invoque, on demande toujours le plus haut degré, afin d'atteindre le plus bas. Ô Seigneur, fais que je sois le guide pour les pieux, c'est-à-dire fais en sorte de me permettre d'être déjà pieux. D'accord ? Pour que je sois en concordance avec les pieux, et il se peut par ma piété qu'elle soit élevée, que je les guide vers le lieu ou le milieu dans lequel je suis guidé. Et donc, cette sourate, elle nous dit cela. En même temps, ce verset, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, met le lien vertical et horizontal. Car on le dit au pluriel. C'est toi que nous adorons. C'est auprès de toi que nous cherchons refuge. C'est-à-dire que le musulman, aujourd'hui, ne doit pas penser une pensée individualiste. Il doit penser tel que le Coran lui inculque et lui enseigne de penser. C'est penser au pluriel. Le Coran, dans le Coran, il y a Yohannas, vous les gens. Il y a Yohannadina Amanu, ou vous qui avez cru. Il y a Yohann Insan. Et quand on compte, on trouve que Ya Yohannas, elle se présente dans le Coran plus que Ya Yohannadina Amanu, Ya Yohannadina, ou vous qui avez cru, ô être humain. Et donc, le musulman doit s'inscrire dans cette démarche de penser au pluriel, d'agir au pluriel, d'être un élément de bien-être au pluriel. Parce que si on regarde bien, chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous est une brique dans le mur. Si je tombe, c'est une brique qui tombe. Et donc, si cette brique tombe, l'air, le vent rentre, fait rentrer la poussière, la saleté, et en même temps, s'il y a de la pluie, elle va rentrer. Et en faisant en sorte que l'air rentre, les autres briques et les liens entre les briques vont se fissurer, ils vont se dissoudre, ils vont se détruire, et le mur risque de se détruire à cause de moi. Et donc il faut que je pense à ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, il faut que je sois une umma. Il faut que je pense umma, il faut que je pense à la nation humaine. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a cité le prophète Ibrahim. Il a dit Kana ummatan, alayhi salatu wassalam. Ibrahim était une nation. Sa foi avait la valeur de toute une nation. Il agissait pour la nation. C'est pour ça que c'est lui qui nous a nommé al-muslimin, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et donc aujourd'hui, il faut que j'ai cette démarche et j'agisse ainsi, que on arrête de penser communauté, on arrête de penser confession. Et qu'on utilise notre communauté, notre confession pour le bien-être de tous, inshallah ta'ala.
Jazakallah khaira, Sahmad, pour cette conclusion. On arrive au terme de l'émission. 0327 59 00, c'est le numéro du standard à retenir par cœur pour les prochaines émissions. Pour l'émission qui va suivre, on va passer le relais 22h. Farid à la technique, avec l'Afrique d'Ahman qui était là et qui a dû s'absenter, je ne sais pas s'il est encore là. Sahmet, maintenant on se retrouve peut-être dans 15 jours, on va alterner. Allah Jazak Bekhir, Rabbi Hafzik. Et quant à nous, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine à partir de 20h vendredi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.